Bonjour à toutes et à tous, merci David pour ce petit Céron, ça met un petit peu l'ambiance pour démarrer, ça fait longtemps qu'on n'ait pas écouté ça. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire, c'est-à-dire vous, et là c'est vraiment le sujet. Aujourd'hui nous recevons Transition Énergétique Saint-Paul avec François Carbonel et Marie-Françoise Le Floch Borel. Bonjour, comment allez-vous tous les deux?
Mais très bien, je vous remercie.
Impeccable.
Très bien. Alors, vous êtes déjà venu il y a quelques temps, hein, pour parler du début. Hein, c'était le premier coup de pelle n'avait pas été donné, mais voilà, il y a des choses qui ont avancé sur... on va parler en tout cas, pas que d'eux, mais cette fameuse centrale hein, de Candate que beaucoup de gens connaissent, hein, forcément. On va d'abord écouter le Flash Info national et international et on se retrouve pour la première partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec nos invités. Alors pour commencer, hein, comme d'habitude, on aime bien avoir une petite idée de la trajectoire de nos invités. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire qui font que maintenant ils sont arrivés à ce micro? Peut-être que Marie-Françoise va se lancer dans le bain.
Voilà, bonjour. Eh bien, je suis jeune retraitée, j'ai 65 ans. J'étais infirmière dans mes occupations professionnelles, tant en libéral et ensuite en EHPAD. J'ai deux enfants et cinq petits-enfants. Je suis... plutôt de sensibilité écologique, hein, on va dire que l'avenir de la planète pour mes petits-enfants, ça me soucie beaucoup. Je suis arrivée à Saint-Paul l'année dernière, au printemps. J'ai voulu donc m'inscrire dans la vie locale. J'ai cherché des associations et je me suis donc impliquée dans TESP qui m'a paru tout à fait en accord avec mes convictions et mon envie de me sentir utile et de faire des choses pas seulement en rêve mais en pratique. Oui. Et c'est ce qu'on fait à TESP. Fait vraiment des choses.
C'est vrai, ouais, comme vous disiez hors antenne, c'est pas du tout une compétence technique qui vous a attiré à ce projet-là, mais c'est plutôt les valeurs qui correspondaient à ce que vous vouliez.
Tout à fait. Et la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir fait une grande école pour pouvoir s'impliquer à TESP. On est bien accueilli, quelles que soient ses compétences. On en a tous des compétences. Donc du coup, à TESP, on peut utiliser ses compétences, quelles qu'elles soient, et trouver une place pour œuvrer ensemble pour des valeurs qui nous sont communes.
Très bien, merci beaucoup. Passons à François, qui est déjà venu, François Carbonel, qui est déjà venu parler un petit peu de ça il y a quelques temps, mais il va nous refaire découvrir un peu sa trajectoire.
Oui, d'abord, merci de votre invitation. Et donc, Transition Énergétique Saint-Paul, notre association, effectivement, c'est un point important de mon activité de retraité. Et donc, je suis un ancien d'Enedis, hein, la distribution d'électricité, et de GRDF, qui est la distribution de gaz. Et donc, j'ai fait toute ma vie dans l'énergie. Et quand je suis arrivé à Saint-Paul et qu'on a trouvé cette opportunité de mettre en place une association qui promeut la transition énergétique, voilà, on n'a pas raté l'occasion. Dans cette activité, donc, on a trois volets principaux. Le premier volet, donc, c'est l'animation citoyenne, qui est le fait de faire porter cette transition énergétique par les citoyens. Mmh. Et en particulier, donc, on s'intéresse aux citoyens en devenir, aux enfants. Mmh. Donc on intervient beaucoup en milieu scolaire. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, vous en avez parlé, donc, c'est la centrale Candate qu'on a... Enfin, sur lesquels on a vraiment des actions fortes, puisque c'est un projet public et citoyen, on reviendra certainement dessus. Mmh. Et donc, on intervient sur la construction de cette centrale, sur le projet de cette centrale. Et enfin, le troisième volet, c'est un volet d'appui à la mairie, dans la mesure où, effectivement, on cherche à porter des projets, à développer des projets dans le domaine de la transition énergétique, que ce soit donc la production d'énergie nouvelle, on en a parlé, mais aussi les économies, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, évidemment.
Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que la sobriété, ça reste quand même une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, la plus importante.
Voilà, donc
Bon, alors là, pour le coup, vous êtes vraiment du domaine, on va dire. Hein. Là, c'est vos compétences personnelles dans votre carrière vous ont donné certainement des manières de voir les choses très concrètes. Hein, où c'est un problème auquel vous avez été déjà confronté dans la production d'électricité. Ça commence à faire un petit moment qu'on fait du solaire.
Alors, en fait, pour Enedis, c'est une vraie révolution culturelle, parce que le modèle Enedis, c'est on produit dans des grosses centrales, ouais, et on distribue chez des particuliers ou des entreprises. Ouais. Là, maintenant, on commence à avoir un modèle qui s'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des moments où l'électricité, elle ne va pas du haut vers le bas, mais elle va du bas vers le haut. Et,
oui.
et donc, ça, c'est une vraie révolution culturelle. Alors, moi, je l'ai connu sur ma fin de carrière, un petit peu, et là, en ce moment, il y a un vrai changement. Hein.
C'est vrai, oui. C'est vrai qu'il y a une période où le solaire, comment dire, au début, chez les particuliers, c'était un argument uniquement financier. C'est-à-dire, voilà, c'est un investissement. Hein, ça rapporte tant, vous revendez l'électricité tant, et voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt consommer sur place l'électricité qu'on produit? Ce serait peut-être pas mal, non? Plutôt que faire encore un produit financier, hein.
Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect financier, effectivement. Donc, pour lancer le solaire, il y a une grosse quinzaine d'années, on a mis en place des tarifs de rachat d'électricité qui étaient très, 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 très attractifs.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis, ça a changé. Et on en est, en ce moment, au quatrième ou cinquième coup de barre assez violent qui fait qu'en ce moment, bah, le modèle qu'on avait il y a deux ans, maintenant, on ne peut plus conseiller le même parce que les conditions économiques ont changé. Mais il y a un aspect surtout écologique. C'est-à-dire que quand on produit de l'électricité dans une centrale qui est située à 500 km, le transport de l'électricité de la centrale à 500 km jusque chez vous, bah en gros, il y en a 10% qui sert à chauffer les oiseaux.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc, ça, c'est dommage.
Oui.
Et donc, alors, que si on produit l'électricité localement, on passe de 10 à 1%.
Alors, c'est peut-être pas sympa pour les oiseaux, du coup, mais bon.
Je suis pas sûr qu'ils aient besoin de chaleur.
Exactement. Je pense pas qu'ils aient besoin de plus de chaleur tout de suite.
Non, les pauvres. C'est vrai. Ouais, alors oui, c'est cette notion, entre guillemets, de rendement que vous avez abordée. C'est vrai. Des fois, on parle souvent de ça quand on parle des capteurs solaires. Combien est-ce que ça récupère de l'énergie que ça reçoit? On est monté à combien? Parce que moi, j'ai connu ça au tout début. C'était super bas. Maintenant, on est monté à combien sur le papier?
Alors, sur le papier, sur les productions dans les 5 à 10 prochaines années, on va monter entre 30 et 35%.
Ouais, ce qui est énorme par rapport au début.
Ah, oui, en gros, c'est presque 10 fois plus.
Ouais, ouais.
Mais en fait, ce n'est pas un enjeu fort. Si, c'est un enjeu parce que si vous avez un bon rendement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de surface de panneaux.
Oui.
Donc, ça occupe moins d'espace.
C'est vrai, oui. Alors donc, bon, on va parler de votre association. Donc, vous l'avez créée quand
Alors, on l'a créé en 2021.
2021, voilà.
Hein, donc, c'était vraiment une démarche citoyenne. On avait déjà été missionné, alors le groupe qu'on constituait avait déjà été missionné en septembre 2020 par la mairie pour réfléchir sur ce qu'on pouvait faire au niveau de la transition énergétique.
Oui, oui, oui.
Et donc, on existait sous forme d'un groupe de travail pour le compte de la mairie. Et puis, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne notre autonomie par rapport à la mairie parce que on intervient dans plein de domaines et sur lequel la mairie n'est pas forcément n'a pas forcément de légitimité à être actrice. Et donc c'est comme ça qu'on a fondé l'association Transition énergétique Saint-Paul. Et maintenant on est ravis que des gens comme Marie-Françoise qui nous rejoint agissent avec nous pour apporter toute sa vision et son soutien de nos actions.
Bien sûr, oui. Comme ce qu'a dit Marie-François, d'ailleurs aussi, c'est que ce qui l'intéressait, c'était pas juste qu'il y avait un projet, des belles idées, mais il y avait des faits concrets. Hein, parce que là, on est parti d'une idée, mais sur le papier, vous avez imaginé, mais maintenant, il y a quelque chose qui a démarré. Donc, ces travaux ont physiquement, techniquement, enfin démarré. Donc voilà, on est vraiment dans le concret là.
Ah oui, effectivement. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, on était sur le point d'obtenir le permis de construire.
Voilà, c'est ça, je me rappelle très bien. Oui.
Et donc, nous avons obtenu le permis de construire, très peu de temps après.
Oui, oui.
Nous avons fait plein d'actions, en particulier avoir un tarif de rachat de l'électricité auprès de la CRE, et donc qui nous garantit la pérennité de notre centrale et des conditions de financement. On a obtenu, donc Marie-Françoise le disait tout à l'heure hors micro, que nous avons obtenu un élément très très important, c'est les sous.
Ah ben oui.
Capital.
Oui.
C'est un élément absolument capital.
Au sens propre du terme.
Et donc c'est un projet quand même qui fait 4 millions d'euros. Et donc il y en a un petit million qui est apporté par les actionnaires, actionnaires qui sont tous publics et citoyens, puisqu'il y a donc la commune comme actionnaire, le département, la région, Énergie Partagée Investissement, qui est une société publique et citoyenne au niveau national, et enfin les citoyens. Il y a on a monté une société citoyenne qui s'appelle CIR40.
Nous.
Oui, oui,
CIR40.
Oui, oui.
Voilà. Nous tous.
Nous tous, parce que on a investi des sous là-dedans.
Oui.
Un petit peu ou un petit peu plus, suivant ce qu'on peut.
Voilà,
oui,
ça.
Suivant ce qu'on peut. Mm-hmm. Mais surtout, ça nous permet de reprendre, je dirais, le pouvoir sur la production d'énergie et son usage.
Mm-hmm.
Et ça, c'est l'aspect vraiment qu'on recherche en premier sur cette notion d'actionnariat citoyen.
Mm-hmm.
Et donc, c'est toujours ouvert, et jusqu'à la fin 2026, vous pouvez vous rendre actionnaire.
Bien sûr.
Et pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur le site tesp.fr et vous verrez, il y a un petit bandeau vert en haut.
C'est ça.
Je deviens actionnaire de Candate.
Voilà. Il y a un formulaire à remplir et puis voilà.
Et voilà.
Tout à fait.
Très, très facile à faire.
Très bien. On va faire de notre première petite pause musicale et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous voilà de retour après un bon petit vieux Wings, 1978 quand même. C'était très bien ça. Et retournons avec nos invités. Donc il y a il y a une partie importante de votre activité aussi, parce qu'on a parlé un peu technique, mais il y a aussi la partie humaine qui est au moins aussi importante, parce qu'on peut investir. On a parlé d'investissement. Il y a un autre type d'investissement, c'est celui qui est l'investissement humain.
Et oui, tout à fait. Et donc quand on parle humain, c'est moi qui cause.
Voilà.
En tant qu'infirmière, l'humain, ça me connaît.
Voilà.
Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que nous pensons que c'est très important de sensibiliser les citoyens, les gens autour de nous.
Mmh.
Et nous intervenons aussi beaucoup auprès du jeune public, donc des enfants, donc en milieu scolaire, pour justement leur parler de choses qui peuvent paraître un peu rébarbatives, mais qui sont extrêmement importantes. Donc l'énergie, comment on la fabrique, comment on l'utilise, comment on peut l'économiser, pourquoi c'est important de l'économiser, et quel effet ça a sur notre planète, et comment ça peut influencer notre vie tous les jours, et puis leur vie à eux future aussi. Et du coup, nous avons aussi, nous pensons mettre en place, nous devons, selon notre charte, mettre en place un parcours pédagogique autour de la centrale Candate, justement, qui sera ouvert au public, jeune et moins jeune, parce qu'on peut apprendre à tout âge, pour savoir pourquoi cette centrale, comment elle fonctionne, pourquoi on a souhaité la mettre en place, et tout ce que ça peut impliquer autour pour le lieu même qui change d'aspect, et la nature qu'on a un peu bousculée, et toutes ces choses-là. Et du coup, ce parcours pédagogique, nous avons souhaité le construire avec les citoyens de Saint-Paul, et donc avec les enfants.
Oui.
Qui ont toujours beaucoup de choses à nous dire, avec les enfants donc des écoles primaires, et donc plusieurs écoles primaires ont accepté de jouer le jeu et de travailler avec nous. et aussi avec les lycéens, donc du lycée technique Haroun Taziev, parce que alors ils sont impliqués dans la filière du bois et ils sont donc d'un point de vue écologique, ils sont en plein dedans aussi. Et aussi, ils ont une section une section de design et qui peut nous aider à mettre en forme là pour le coup. Donc les petits vont nous aider pour le fond. Et les grands vont nous aider pour la forme. Oui. Et nous, on est un peu le chef d'orchestre et on essaye de coordonner tout ça et de faire que les uns puissent travailler avec les autres. Voilà.
Oui, bon, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, il y a un terme qui est apparu, voilà, l'éco-anxiété. C'est-à-dire, mais l'éco-anxiété, c'est quoi? C'est juste être inquiet. Voilà, ça, on est tous de plein de choses qui se passent. Mais c'est vrai que si les enfants, on les forme vraiment, c'est-à-dire qu'ils connaissent les tenants, les aboutissants, et pas juste dire, ouais, y a quelque chose qui n'est pas bon en ce moment, c'est savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Là, c'est une partie éducative pour toute la société qui est très importante.
Et puis l'éco-anxiété, c'est surtout aussi quand on se sent impuissant. Donc quand on rentre dans le jeu et qu'on a l'impression de... qu'on a l'impression d'ailleurs qu'on fait quelque chose, qu'on est vraiment acteur, qu'on prend les choses en main, eh ben l'éco-anxiété, elle diminue parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas si impuissant ça.
Et oui. Vous en êtes la preuve même, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a un projet concret, physiquement, techniquement, qui est là. Hein, donc, ce n'est pas juste une idée en l'air, ce n'est pas juste des belles paroles, c'est qu'à un moment donné, il y a des faits qui peuvent suivre de tout ça. Donc,
voilà. Tout à fait. Et puis, en plus, on le fait ensemble, parce que l'éco-anxiété, c'est souvent aussi quand on est tout seul dans son coin à ruminer des choses auxquelles on ne peut rien. Bah là, on essaye de faire des choses ensemble pour faire avancer les choses dans le bon sens.
C'est ça. Voilà. Là, on parle vraiment de projet citoyen. Donc c'est pas une entreprise qui a décidé tiens je vais mettre de l'argent là-dedans pour gagner des dividendes d'une certaine manière etc en faisant du greenwashing comme on dit. C'est que là c'est vraiment des gens qui ont décidé de prendre leur avenir et leur environnement en main et c'est en ça que vous avez valeur d'exemple. Sans vouloir vous mettre la pression.
Merci
bien sûr.
Beaucoup. Mais oui, c'est un peu l'idée, c'est de montrer qu'on peut toujours faire quelque chose et qu'il ne faut pas se sentir, il ne faut pas se dévaloriser, penser qu'on ne peut rien. Si on peut, ne serait-ce qu'en parlant à ses enfants, en éduquant ses enfants, on peut faire quelque chose, on peut agir sur la façon dont on utilise justement l'électricité, sur la façon dont on se comporte tous les jours, parce que nos petits gestes de tous les jours ont une importance.
Bien sûr. Eh bien, on va faire déjà une deuxième petite pause. On va écouter un petit peu de musique et le flash info local. Et on se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec un petit Jacques Higelin. Il avait toujours une manière de positive, poétique, de dire les choses avec toujours des notes d'espoir et tout. C'était quelqu'un, voilà. Et tomber du ciel, ben oui, comme la lumière tombe du ciel sur les panneaux solaires. Alors, mais il se trouve qu'on a d'autres cordes à notre arc, paraît-il.
Ah oui, parmi les projets que porte Transition énergétique Saint-Paul et le groupe de travail, il y a aussi le fait de travailler. Alors ça c'est des ambitions, c'est pas encore un projet concret, mais c'est une ambition, c'est de travailler sur le gisement géothermique de Saint-Paul. Et donc c'est un gisement qui doit avoir maintenant pas loin de 30 ans et qui n'a jamais été vraiment exploité à sa pleine capacité. Et donc l'idée sur laquelle on travaille, c'est de développer un réseau de chaleur et dans l'éco-quartier qui est prévu à construire dans le quartier de la Pince. Et donc on travaille là-dessus, on réfléchit surtout pour l'instant, c'est au niveau des réflexions préalables. Et donc c'est un vrai chantier parce que c'est quelque chose. Alors il y en a pas beaucoup dans la région. Il y a beaucoup en région parisienne, énormément en région parisienne, mais il y en a pas beaucoup dans la région. Je crois qu'il y a un petit îlot de chaleur à Mont-de-Marsan.
Mont-de-Marsan, oui.
Ici, on en a un quand on arrive à le faire fonctionner, ce qui n'est pas évident. Et donc, l'idée, c'est de le développer.
Alors, pour une petite explication technique, donc, d'où ça vient cette eau chaude? C'est l'eau qui s'infiltre profondément dans la croûte terrestre et puis elle finit par rencontrer beaucoup de chaleur et finit par remonter et nous redonner cette énergie qu'elle a prise dans l'énergie, la chaleur du noyau.
Oui, alors absolument, vous avez tout à fait raison. C'est de l'eau qui est, en l'occurrence, à 1,7 km de profondeur, donc c'est énorme, et qu'on fait remonter, et elle sort à 52 degrés, ce qui permet de l'exploiter pour faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
D'accord. Il y a moyen d'utiliser d'une autre manière cette chaleur-là pour faire des réactions ou tourner quelque chose ou pas? Non, elle n'est pas assez chaude.
Alors, elle n'est pas très chaude, effectivement, 52 degrés, ce n'est pas énorme. D'une part, et d'autre part, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant de faire autre chose, par exemple de l'électricité avec ça.
Oui.
Par contre, il faut quand même se souvenir que je crois que c'est un quart de l'énergie en France qui est consacrée au chauffage et à l'eau chaude.
Oui.
Donc si on arrive à utiliser le plus directement possible cette chaleur pour le chauffage eau chaude, ben, je pense que ce sera un bon plan.
Oui, c'est vrai. Alors que moi, quand je regarde sur mon application EDF, sur la consommation, moi on m'annonce que c'est la majeure partie de ma consommation d'électricité, c'est la production d'eau chaude. C'est ce qu'on me dit en tout cas dans mon bilan énergétique.
D'accord.
Voilà, donc j'imagine que c'est ça le cumulus. Hein, voilà, beaucoup de gens ont un cumulus maintenant. Voilà, et du coup, on a déjà un cumulus sous les pieds, en fait.
Alors, oui, c'est ça, tout à fait. Effectivement, l'eau chaude est une partie, mais je pense que vous devez vous chauffer avec autre chose que de l'électricité, parce que sans ça, ce serait ça votre premier poste budgétaire.
Ouais.
Ce serait le chauffage de la maison.
Ah, ben j'ai un poêle à bois.
Alors, voilà.
Ah, ben oui.
J'ai un poêle à bois. Voilà. J'utilise quasiment que ça l'hiver, d'ailleurs. J'essaie d'éviter l'électricité. Bon, alors, il me semble que l'électricité, il y a quelque temps, on s'est trouvé dans un paradoxe où elle était carrément vendue à perte. Enfin, mais sauf que nous, elle ne baissait pas. Et sur le marché de l'électricité, l'électricité se vendait à un prix presque négatif, alors que nous, on la payait quand même toujours très cher. Mais comment se fait-ce?
Alors, ça, c'est une difficulté qu'on a à l'heure actuelle. On a planifié, en gros, le développement des énergies renouvelables par rapport à un plan de développement des consommations d'électricité. Il se trouve que les consommations d'électricité ne sont pas au rendez-vous. Du coup, on se retrouve avec quelques périodes dans l'année où il y a trop d'électricité disponible. Et donc, le moyen de régulation actuel du marché, c'est de mettre des prix négatifs sur l'électricité.
Oui.
Ce qui est absolument inconcevable, pour le commun des mortels.
Oui, c'est vrai.
Mais bon, ce sont des logiques de marché. C'est pour ça que notre projet public et citoyen s'extrait de ces logiques de marché. Pour justement la production d'électricité de la centrale Candate sera un facteur de stabilité des prix de l'électricité en France.
Oui, voilà.
Petit facteur, puisque ça fait quand même 5 mégawatts, c'est-à-dire la consommation de 2500 foyers à peu près, mais ça contribuera à stabiliser le prix de l'électricité.
D'accord.
Et alors, par contre, on est rattrapé par cette réalité donc de prix négatifs, c'est que quand les prix seront négatifs, on nous demandera de ne pas produire. On sera un petit peu indemnisé, mais enfin pas à hauteur de ce qu'on aurait pu produire à ce moment-là. D'où le concept qui est en train de se développer et qui se développe à très très grande vitesse, c'est le concept de stockage.
Ah oui, ben oui.
Et la centrale serait à refaire maintenant, on serait dans la phase de conception, il est probable qu'on rajouterait une partie stockage de l'électricité sur le projet. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que dans les années à venir, on se dise, on va profiter du fait qu'on a un petit peu de place sur le terrain.
C'est ça, vous avez pour mettre la moitié à peu près, oui.
Alors on a utilisé la moitié, mais alors la moitié qu'on n'utilise pas, en fait, c'est pour des raisons écologiques.
Oui.
Mais dans la moitié qu'on utilise pour la production, on a quand même un petit peu de place pour on pourrait mettre quelques stockages. Mais là, pour l'instant, c'est comme la géothermie, ça fait partie des réflexions. On n'est pas du tout dans l'action.
Oui, bon, on vous fait confiance, puisque vous avez réussi à transformer l'essai une fois. Maintenant, vous êtes coincé. On compte sur vous. Désolé. Alors, ce stockage, justement, quand vous parlez de stockage, vous parlez de quoi? Vous parlez de batterie?
Ah oui, pour l'instant, oui. Alors, les batteries, on parlait tout à l'heure de l'augmentation du rendement des panneaux solaires, mais l'efficacité des batteries en ce moment, ça prend un développement absolument extraordinaire.
Oui.
Et il ne se passe pas un mois sans qu'on ait une annonce d'une batterie qui fait 5% de mieux que la génération précédente.
Ouais. Alors parce que c'est vrai que des fois dans la littérature scientifique, on voit tel chercheur a découvert tel truc. Alors j'ai l'impression qu'il faut un temps, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, les infos qu'il y a, mais qu'il faut un temps tellement grand, un peu qu'on me développe un médicament avant qu'on se soit sur le marché disponible pour nous, que des fois je me dis, bon, quand est-ce qu'on va avoir des batteries, des téléphones portables qu'on recharge une fois par mois ? Enfin, je ne sais pas, quand est-ce que... Quel est le taux d'arrivée pour le grand public des technologies qui arrivent sur le stockage ? Je ne sais pas trop, ça.
Ah, par rapport à ça, enfin, moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que je lis la littérature, mais je suis persuadé. Alors, on ne va peut-être pas se précipiter sur le téléphone portable parce que le recharger une fois par jour ou une fois par mois, ça ne change pas fondamentalement la face des choses. Mais par contre, par exemple, une application à laquelle tout le monde pense, c'est les voitures électriques.
Oui.
Et effectivement, avoir une voiture électrique et qui aurait une autonomie de 1000 km, ça change franchement le spectre d'utilisation.
Oui, ça, c'est sûr. Oui. C'est vrai que c'est pas encore ça, en fait, l'autonomie, malgré ce qu'on nous dit. Ça va venir.
Ça arrive à une vitesse, on s'en rend pas compte.
Très bien. Alors, vous voulez parler encore de ce parcours pédagogique, hein. Donc, on repart sur l'humain. Hein,
c'est la, oui.
Voilà. Et alors, c'est quoi les projets, les actions qui sont prévues, là, dans un court ou loin futur, par rapport à ce projet pédagogique, hein. Vous avez des actions dans les classes ? Est-ce qu'il y a des médiations, ce genre de choses ?
Alors, pour le moment, nous en sommes aux phases préparatoires. Voilà, donc nous intervenons dans deux écoles primaires qui doivent travailler sur ce qu'on pourrait bien raconter sur ces panneaux, comment on va expliquer, comment ça marche. Et puis, parallèlement, nous travaillons aussi avec les élèves de d'Arun Taziev pour savoir quelle forme ça peut prendre, donc probablement des panneaux, mais pour la conception, c'est pas si simple que ça, parce que quand on en voit des tout construits, et je suis allée en voir un à Malemort, on se dit « Oh, ben, c'est pas l'air si compliqué, mais si, détrompez-vous, c'est pas si simple à faire, il faut pratiquement, il faut savoir quels matériaux on utilise, comment on va imprimer dessus, toutes ces choses-là, et puis aussi, qu'est-ce qu'on met dedans, parce que c'est pas si simple que ça, alors on met des schémas, on met des explications ». Peut-être maintenant, pourquoi on ne mettrait pas un QR code qui nous renverrait, si on a envie, à travers notre téléphone qu'on a tous, vers des explications plus pointues ou les choses qui nous intéressent vraiment. Alors, c'est pas évident du tout de mettre tout ça en place.
Oui, bien sûr. Ouais. Après, il serait que la partie... expérimentation, démonstration. Je pense toujours à ce bon vieux C'est pas sorcier qui a été mis beaucoup à contribution à l'éducation nationale, l'air de rien. Parce que c'était très bien ce qu'ils faisaient, parce qu'ils utilisaient peu de technologie, ils utilisaient presque du bricolage, entre guillemets, sans être péjoratif, l'utilisation de ce terme. Et ça, c'est vraiment un moyen pédagogique de transmettre des choses qui est vraiment super.
Alors, on bricole beaucoup avec les enfants, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le parcours pédagogique. On va aussi dans les écoles pour les sensibiliser à l'énergie, comme je disais précédemment. Et là, nous avons tout un tas de petits objets ludiques. Alors, ça va des petites voitures qui marchent au solaire, où on leur fait aussi manipuler des ampoules, des fils électriques, des piles, et voir comment ça marche, et pourquoi ça s'allume, et pourquoi ça s'allume pas, et comment il faut faire pour que ça s'allume pas, et est-ce que si on met beaucoup de fils, et ça marche mieux que si on n'en met pas beaucoup. Et ça nous permet effectivement d'expliquer plein de choses qui sont difficiles quand on n'a pas un support physique, mais quand on fait manipuler aux enfants, ils comprennent beaucoup plus vite.
Oui, mais oui, tout à fait. Vous prêchez un convaincu que c'est vraiment très important, la partie pratique. On apprend au moins autant en essayant par l'erreur, l'échec et l'expérimentation que par le simple cours magistral où on écoute quelqu'un qui dit voilà, ça c'est certain.
Et puis c'est beaucoup plus rigolo, hein.
Et en plus on peut faire des bêtises, c'est ça qui est bien.
Exactement.
On va faire notre dernière pause musicale et on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission. Et nous voilà de retour. Mike and Mechanics avait besoin de miracles. Mais vous avez besoin de bras et...
D'esprit aussi,
voilà,
un peu.
C'est ça.
Et on a besoin de tous les talents, de tous les gens, jeunes, moins jeunes, des hommes, des femmes, qui veulent bien venir nous rejoindre et nous aider. Voilà, c'est dit.
C'est ça, parce que bon, après, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de parler de ce qui a été vraiment fait et tout devrait donner une petite étincelle quand même d'espoir à ceux qui n'en ont pas, de se dire qu'on peut vraiment réaliser des choses. Voilà, donc, et puis voilà, les associations, il faut un petit peu de, hein, un petit peu de s'enfrer de temps en temps, et puis voilà, plus on est, moins il y a d'efforts à faire pour chacun, et cet aspect pédagogique aussi demande pas mal de bras et de compétences.
Hein. Et bien, plus on est, plus on peut faire de choses.
Voilà, ça, c'est une bonne morale. Et donc, la géothermie, voilà, aussi, qui va arriver, donc peut-être, bon, c'est un projet. Alors, voilà.
Pour compléter quand même sur l'impact qu'on a avec les jeunes, moi, une chose qui vraiment me tient à cœur, c'est que vraiment, c'est extraordinaire de voir la capacité qu'ont les jeunes à se projeter. Mmh. Et vraiment, c'est extrêmement gratifiant. Mmh. Et moi, tous les gens qui interviennent, là, et la dernière fois, on était 7 à intervenir. On a fait 3 classes les unes après les autres, on était un peu rincés en sortant, mais vraiment, on avait tous la banane, quoi. Vraiment, c'est hyper motivant, on a vraiment l'impression de faire de belles choses. Alors, pour revenir sur effectivement la géothermie, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, il faut lancer un appel d'offres pour trouver un prestataire pour exploiter le réseau existant. Mmh. Et puis, il faut monter une structure pour développer le réseau, parce que je pense que ça ne sera pas la commune qui pourra financer la totalité du projet. Mmh. Donc, il va falloir qu'on fasse un montage, par exemple, qui pourrait s'approcher de ce qui s'est fait pour Candate, avec des acteurs, pour faire un projet de réseau de chaleur dans Saint-Paul pour exploiter ce gisement.
D'accord. Alors, en termes de calendrier, je reviens à Candate encore. Donc là, le terrassement, ça a démarré.
Voilà. Alors, voilà. Pour revenir sur Candate, effectivement, donc terrassement et clôture, ça va être en train de se finir. Mmh. Ensuite, on va commencer à poser les long greens. Les long greens, c'est des poutres en béton sur lesquelles on va accrocher les panneaux solaires. Ouais. Donc ça devrait se faire entre fin mars et mi-avril. Mmh. Et ensuite, on va commencer à monter les structures métalliques et les panneaux solaires, puis les câblés, etc. Le tout à suivre. Et normalement, dans le courant de l'été, on aura terminé les travaux. On pourra commencer à programmer, à faire en sorte que tout soit prêt pour le raccordement, sachant que on a signé cette semaine la convention de raccordement par Enedis, et donc qui nous promet que fin novembre ce sera fait, et on a un espoir que ça soit en fait dans le courant du mois d'octobre, parce que ce serait un bel anniversaire, parce qu'en gros on a commencé le projet en octobre 2020, et si on pouvait le conclure en octobre 2026, voilà, ça ferait 6 ans. C'est un mandat, c'est marrant.
C'est un mandat, oui, c'est ça. Alors, il est encore temps aussi de vous rejoindre, c'est-à-dire si des gens veulent s'investir financièrement, je parle aussi dans l'aventure aussi, bien entendu, je mettrai un lien sur le site, ils peuvent, comme vous disiez, en haut, il y a un bandeau, et effectivement, on peut postuler pour devenir actionnaire.
Voilà, tout à fait.
Dans CIR 40.
Dans CIR 40, alors CIR 40 qui met tous les montants qui sont investis dans CIR 40 aboutissent à soutenir Candate, enfin, à financer Candate. Oui. Et donc, c'est un investissement dans CIR 40, c'est un investissement dans Candate. Et donc, c'est important. Je disais, le financement, je dirais, à la limite, il est bouclé. Mais c'est surtout s'investir dans un projet public et citoyen. Mmh. Et donc, ça veut dire aussi reprendre la main sur l'énergie et ne pas la laisser à des sociétés dont c'est le métier, mais qui décident à notre place.
Oui. Et vous savez de quoi vous parlez.
Et on peut acheter juste une action. Et une action, c'est pas très cher.
50 euros.
Voilà. Ah, oui. Donc, c'est à la portée de beaucoup. Et une action, une voix. Une fois qu'on est actionnaire, on a le droit de parler.
Ah, ça c'est bien ça. C'est pas partout le cas. Hein.
Ah oui, non, ça c'est clair. C'était notre volonté. C'est pour ça que c'est une société citoyenne. Mm-hmm. C'est une personne, une voix.
Et aussi, c'est pas parce qu'on en a 50 qu'on a une plus grosse voix que celui qui n'en a qu'une.
Ah mince, c'est pas la voix du plus fort.
Ah non.
Ah mince. Très bien. Eh ben voilà, ben merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'est assez engageant. Hein, ça fait quand même un peu plaisir. On a envie de voir un petit peu comment les choses vont avancer, et puis les autres projets, et puis les enfants aussi. Voilà, ça c'est important. Si les enfants c'est l'avenir, toujours. On compte sur eux, les pauvres. Il leur en faudra du courage.
Et rendez-vous le 23 avril à Candate pour une visite du site. Ce sera la prochaine manifestation pour le grand public.
Ça vaut le coup d'aller voir ça. Ben, merci beaucoup tous les deux d'être venus nous parler de cette belle aventure. Merci beaucoup, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Merci, bonne journée.